belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.
La belle rencontre d'aujourd'hui, je vous la propose avec un homme que vous êtes nombreux à connaître sur ces ondes. Un homme de la gratitude dont on peut dire que l'éthique de sa vie tout entière est une éthique de la gratitude. Il va donc nous parler de gratitude, d'éthique et de tas d'autres choses qui ont marqué son presque siècle de vie. Bonjour Michel Fréchet.
Bonjour.
Je suis ravie de vous recevoir.
Ravie de vous rencontrer aussi.
Michel, c'est quoi pour vous une belle rencontre ?
Une belle rencontre, c'est le moment précieux où l'on peut échanger. Pouvoir recevoir de l'autre ce qu'il porte dans sa vie d'essentiel, ce qui donne sens à son existence et à tout ce qui lui est cher finalement. Et de pouvoir en retour aussi pouvoir exprimer ce que l'on porte en soi, certainement de questionnement, mais aussi de raison d'être heureux et surtout d'exprimer effectivement la reconnaissance pour tout ce qu'on a reçu des autres.
Quand vous parlez de reconnaissance, quand vous parlez de gratitude, c'est dans le même ordre de sentiment ?
Oui. Gratitude, reconnaissance, pour moi, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a une différence ?
Non. Mais peut-être il y a des subtilités. Moi, je n'en vois pas, mais s'il y a deux mots, c'est peut-être qu'il y a des subtilités qui les séparent.
Ça, c'est vrai.
on va parler de vous, on va parler aussi de vous à travers votre livre, donc, qui est sorti en 2021, votre livre de mémoire de cette traversée d'un presque siècle. Et évidemment, on parle de rencontres. On ne peut pas traverser un presque siècle sans en faire de très belles de rencontres. Alors évidemment, très vite, vous parlez de Mizou, votre épouse, mais à part Mizou, il y a des rencontres essentielles qui ont à un moment changé le cours de votre vie.
Ah oui, oui. Ça, c'est clair, oui. Oui.
Et c'est avec des personnalités, bon, je sais qu'à un moment, on va les évoquer, mais il y a vraiment des gens que vous avez rencontrés qui, par exemple, je pense à Karl Barth que vous rencontrez à Épinal, voilà, on sent que c'est une rencontre importante, oui. Plus qu'importante pour vous.
Oui.
C'est déterminant ces rencontres-là dans votre vie ?
Ah ben, il y a des rencontres qui ont été tout à fait déterminantes. Mmh. Celle-là en particulier, Karl Barth, parce que au fond, je ne le connaissais que par quelques écrits que j'avais lus à son sujet et sur son travail théologique. Mais le rencontrer et de le voir, c'est vrai que ça fait quand même une grande impression, parce que à l'époque, en tout cas, il était considéré comme vraiment le grand théologien du siècle, quand même. Il y en avait d'autres, naturellement. Mm-hmm. Je pense à Tillich, à Bonhoeffer, mais c'est sûr que Karl Barth était une figure dominante dans les années 30, 40, 50, oui, ça c'est sûr.
Il y a quelque temps, avant Noël, on s'était rencontrés une première fois, où vous m'avez confié deux livres. Et puis, ben, quand je me suis attaquée à ces livres, je lui ai dit, on va déjà parler d'un, parce qu'il y a déjà beaucoup à dire. Et donc, je vous signale, chers auditeurs de Radio FM+, que nous allons partager 2 fois 40 minutes avec Michel Fréchet. Aujourd'hui, nous allons parler de son enfance et de sa jeunesse. Et puis, dans la deuxième partie, de son ministère et de tout le travail qu'il a fait avant la retraite. Voilà, on va avoir 2 émissions pour parler de vous, Michel. Michel, on va parler de votre enfance, d'abord parce qu'elle est importante. Vous êtes né le 10 juillet 1930 à Roquefort-sur-Souzon. Vous pouvez nous en parler un petit peu de cette enfance ?
Ah, je peux en parler parce qu'elle est restée profondément gravée dans ma tête. C'est fou, comme un enfant peut enregistrer des choses, des émotions, et qui finalement... des petits riens de la petite enfance qui vont marquer, font toute la vie. Et c'est sûr que parmi ces émotions que j'évoque, bien sûr, ça a été la chance d'être né dans une famille. On est accueilli avec amour et dont les parents qui étaient à la fois extrêmement bons, mais exigeants en même temps. Ça, c'est sûr. Ils avaient une éthique exigeante. Et on sentait bien qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants dévient. Mais nous avons eu le privilège d'être au fond nombreux, nombreuses familles. Déjà,
on va en parler, oui.
Oui, voilà. Et donc, ça aussi, ça compte dans l'expérience de l'enfance.
Famille, évidemment, on le précise, mais famille protestante, bien évidemment. Protestante depuis très longtemps. C'est par exemple une famille qui avait dû à souffrir des Cévennes, etc.
Alors, sûrement des deux côtés, oui. Je pense que l'origine du mot, d'ailleurs, de patronyme, Fréchet, ma famille était originaire de mes grands-parents, mes aïeux, de l'Isère, de Mince dans l'Isère. Mais on se demande, ce nom-là, on le retrouve dans l'Ariège. Mmh. Alors, ça, c'est pas une garantie. Mais je me demande si au moment de la révocation de l'édit de Nantes, il n'y a pas eu donc des familles qui ont quitté l'Ariège et qui ont pris les chemins de l'exil et se sont arrêtées en cours de route.
C'est vrai que quand on prend les chemins de l'exil, voilà. des camisards, oui, enfin de oui, tout ce mouvement-là, oui, qui oui, allait vers la Suisse, enfin oui, l'Allemagne, oui, évidemment, passe par loin de chez nous. Oui.
Alors donc les deux côtés, familial, paternel et maternel, je pense qu'ils étaient d'origine huguenote depuis longtemps. Très longtemps.
Donc votre père est directeur de la Société des Caves de Roquefort. Et il est en Aveyron, Lozère, une grande figure de la résistance. Il s'engage très vite et il est arrêté, torturé par la Gestapo à Rodez, puis déporté à Buchenwald, dont il reviendra en 45. Michel, vous avez déjà entre 10 et 15 ans, donc vous
oui,
en souvenez.
Oui, je m'en souviens comme si c'était hier. Ouais. C'est certainement les journées, parce que ça se compte par journée, dont je me souviens presque minute par minute.
C'était visible dans la famille que votre père avait, quand il était dans la résistance, avait des occupations dont il ne fallait pas parler. Vous le sentiez, ça?
Non, on sentait qu'il a été tout de suite le parti pris qu'il a pris, hein, des mêmes avant la guerre. Mm-hmm.
Oui.
On sentait la montée du nazisme, on sentait qu'il se passait quelque chose. Alors un enfant qui a 6-7 ans, bon, il entend des mots, mais on voit aussi l'ambiance autour. Et on comprenait combien il y avait une préoccupation, une inquiétude de la montée du nazisme en France. Ça, alors, je m'en souviens très, très bien. Et ensuite, quand les choses sont révélées, évidemment, en 1939, la seconde guerre, l'éclatement de la guerre, alors à ce moment-là, les choses sont allées très vite. Et mon père, c'est bien sûr à partir du 10 juin, ça c'est clair qu'il était on savait très bien quel côté pencher son cœur et son... Mais nous, par la suite, par contre, son entrée dans la résistance proprement dite, qui était, au fond, il y a de cette époque-là, nous n'en savions rien. Nous l'avons su qu'à Noël 1943, car il était extrêmement important, justement que dans les familles, on est, même dans le cercle familial le plus restreint, il n'y avait que ma mère qui savait que mon père était vraiment entré dans la résistance. Et parce qu'il fallait protéger précisément les membres de la famille très vite.
Bien sûr. Ouais, voilà. Parce que c'était un président des caves de Roquefort, c'est un poste de notable quand même, c'est un poste
qui lui
permettait aussi sûrement d'échanger plus facilement. On sentait pendant la guerre à Roquefort, par exemple, vous sentiez vraiment la présence de l'occupation ou pas tellement de
Non, parce que c'était quand même un lieu privilégié, l'Aveyron.
Ouais. C'était zone libre.
C'était quand même privilégié à bien des égards. Ouais. Aussi, c'était un département rural. Alors, sa particularité était que le fait aussi, sur le plan religieux, c'était un département très catholique.
Oui.
Nous étions dans un village très catholique, et nous étions une famille protestante qui venait là avec famille d'enfants. Évidemment, on était un peu regardés. Au départ, ça n'a pas été forcément facile pour mes parents.
Dans un poste important en plus, quand même.
Oui, oui. Mais je crois qu'ils ont fait leur trou, tout simplement par leur qualité humaine qui a été reconnue. vraiment, de l'un comme de l'autre. Ça, on peut le dire.
À côté de cette figure qui était votre père, vous parlez de votre mère comme une femme solide et forte, qui soutenait en silence les actions de son mari et qui représentait pour vous les enfants. Donc, parce que les enfants, vous êtes nombreux, vous êtes six frères. Six enfants.
Sept enfants.
Sept enfants, deux filles aînées,
oui.
Et après des garçons.
Aînés qui étaient pour nous comme des icônes.
Voilà. Mais en plus, c'est une question que je veux vous poser, justement, sur le rôle. Les deux filles qui sont les aînées. C'est pas n'importe quoi d'être la fille et l'aînée. Cette mère, j'aimerais pas me faire une image d'elle quand on dit comment soutenir en silence. Alors, la question que je voulais vous poser, justement, et qu'on a un petit peu abordée, est-ce que les échanges échappaient aux enfants ou est-ce que c'était une femme qui était de nature discrète et silencieuse?
Elle parlait. Elle parlait, mais elle était bienveillante à tous égards. Et c'est sûr qu'elle n'aimait pas du tout, je le dis dans le livre, tout ce qui était des racontars, ça vraiment.
Femme droite.
Oui. Ah oui, ça. C'est sûr.
Vous en parlez beaucoup de cette fratrie, cette grande fratrie. C'est vraiment une grande, grande fratrie. C'est sûr que, bon, en 1930, il y en avait encore des grandes fratries, mais enfin, maintenant, il n'y en a plus beaucoup.
Il n'y en a plus beaucoup, parce que justement, c'était assez étonnant, parce qu'on dit que les protestants et les familles protestantes étaient plutôt réduites. Et surtout, quand nous étions quand même la famille, je crois. Il y en avait une autre aussi, ou deux, à Roquefort, qui était de 7 ou 8 enfants aussi. Mais c'était relativement rare.
Ces deux sœurs aînées, elles étaient aussi présentes dans l'éducation des garçons? Ou pas tellement, ou c'est quand même votre maman qui s'occupait de votre principal.
C'était principalement. Mais ma sœur aînée était ma marraine en plus. Alors, évidemment, vous avez une affection, surtout qu'elle était une fille brillante et qui a beaucoup compté.
J'ai une tendresse pour les filles aînées, parce que, alors, pour vous dire, ma mère est la fille aînée de deux garçons. Et elle, ses parents étaient commerçants, et elle a plutôt un souvenir affreux qu'on a vite confié les garçons à éduquer. Donc c'est pour ça que je vous demandais si vos sœurs avaient été aussi des figures, ben là si elle est marraine, des figures d'éducation ou pas du tout. C'était quand même
là c'était bien. Nous avions beaucoup de considération pour nos sœurs. Je crois qu'on ne s'est jamais disputé, mes frères et moi. Par contre, mes frères et moi, nous étions 5 garçons, mais en 4 ans.
Oui.
5 garçons en 4 ans, vous voyez ce que ça peut donner. Surtout que nous avions la même chambre en plus.
Oui.
Et ça compte, ça, parce que forcément, il y avait des éclats. Forcément. Mais je crois que c'est ça aussi qui a forgé notre profonde affection mutuelle, finalement.
Il y en a quelques-uns qui sont avec vous.
J'ai perdu ma sœur aînée il y a 2 ans. Elle avait 101 ans. Elle a laissé une nombreuse famille derrière elle. Elle était arrière-arrière-grand-mère quand elle est partie. Donc,
c'est la vie. C'est la tristesse.
Je n'ai plus qu'un frère maintenant.
Vous entrez à l'école laïque en 1936, Michel. Est-ce qu'il y avait un autre choix pour les parents protestants de scolariser les enfants dans un département très catholique, vous l'avez dit. Donc, il y avait une école catholique. Donc ça, il en était hors de question, je pense.
C'est-à-dire que dès que mon père est arrivé, que les enfants étaient là, c'est vrai que les cadres, même d'enfants, ont tout de suite fait une pression, disons une pression amicale, en disant naturellement, l'enfant sont accueillis à l'école privée. Mais c'est vrai que d'emblée, je pense que mes parents avaient une fibre républicaine, laïque, protestante, parce que c'est dans les gènes, alors ça, du protestantisme. C'est sûr. Mais ça a été accepté.
Oui.
Malgré tout, ça a été accepté. Mais c'est vrai que l'école laïque avait combien? Nous étions 14, 15 à l'école laïque. Et il y avait 200.
Avec
200,
classes,
200 ou 300. Oui, quand même. Il y avait 4 divisions.
Voilà, c'était incroyable, ces instituts de cette époque-là pouvaient faire du CP au CE1, au CM2 et aller de table en table.
Et après, je me suis toujours demandé qui étaient ces enfants qui étaient là. Je pense que c'était des enfants, ça c'est mon interprétation, c'était en rupture probablement avec l'Église catholique, parce qu'en principe, tout le monde devait aller à la messe le dimanche.
C'est des départements, l'Ardèche était comme ça aussi, très catholique. Il y avait évidemment Viviers, le Vivarais, c'était un lieu où il y avait un archevêque, donc des lieux comme ça qui étaient très, très... L'école, encore aujourd'hui, catholique en Ardèche, est très présente. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'écoles catholiques. Quel souvenir vous gardez de l'école?
Moi, je vais vous dire, je n'aimais pas l'école.
J'ai cru comprendre un peu. Hein.
Alors, non, j'étais vraiment mauvais.
Non, vous avez dit moyen dans le livre.
Moyen, non.
Ouais, ça, vous avez mis moyen. Hein.
Moyen.
Non, c'est mauvais. D'accord.
Non, j'étais mauvais. Non. Il y avait 6 élèves dans ma division. J'étais le plus souvent le 6e. Alors, vous voyez, 6e sur 6, c'était pas glorieux. Et quand j'étais 5e, c'était un triomphe.
C'était la fête.
Non. Mais je dois reconnaître, après coup, que quand même, dans cette école, j'ai appris quand même des choses. Mais ce n'était pas mon truc.
Qu'est-ce qui vous intéressait? Il y avait une matière qui vous intéressait plus que d'autres?
Au fond, j'aimais les récitations, ce n'était pas trop mauvais. Le français, c'était zéro. Hein.
Et vos frères et sœurs, eux, étaient brillants?
Alors, les aînés, oui. Mm-hmm. Ils étaient, brillants. Ils étaient de bons élèves. Ah oui, ils étaient en tête de classe. Mm-hmm. Ils étaient en tête de classe. Mon plus jeune frère et moi, nous étions... Non, on n'était pas...
Le récit de toute cette tendre enfance, hein, c'est-à-dire l'enfance avant 15 ans, nous fait voyager beaucoup dans la géographie familiale. C'est-à-dire que, bien sûr, vous nous parlez de Roquefort-sur-Soulon, de Sommières, du Chambon-sur-Lignon, de l'Espérou, de Mans, de Dieulfi, hein, on en a parlé au téléphone, Dieulfi qui est cher à mon cœur, le Lavandou, Palavas-les-Flots. C'est ce que vous nous contez dans cet ouvrage donc, qui s'appelle « Traversée d'un siècle entre ombre et lumière » et qui est paru aux éditions Région 21. C'était important pour vous, Michel, de toute cette enfance, tout ce vécu, d'en faire quand même un ouvrage testimonial, un témoignage de vie, pour votre famille, pour les lecteurs. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de transmettre? C'est le pasteur Michel Bertrand qui fait la préface de votre livre, qui le dit, hein, que cette envie de transmettre était importante pour vous.
Ben, à un moment donné, oui, parce que, en fait... C'est quand je suis arrivé, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'avais 84 ans, que finalement, la jeune génération, enfin, mes neveux, disons, au niveau de mes neveux, de mes enfants, en gros, m'ont dit, on a eu beaucoup d'informations sur ce que j'avais vécu, mais au fond, ce sont des bribes. Et on aimerait savoir vraiment comment vous l'avez vraiment vécu de l'intérieur. Et c'est là que s'est posée pour moi la question. J'ai dit, parce que moi, j'avais rien enregistré. Et donc, je me suis demandé comment j'allais m'y prendre. Est-ce que m'adresser uniquement à mon entourage familial, ou bien est-ce que ça pouvait déborder un peu, ça pouvait intéresser? Est-ce que c'était de l'ordre de l'intime, ou ça pouvait dépasser ce cadre? J'ai beaucoup hésité, en fait. Et puis, finalement, j'ai commencé à écrire... Et puis, petit à petit, les choses sont venues. J'ai vu qu'au fond, peut-être qu'il peut y avoir une relation constante entre l'événement tel que je l'avais vécu, que ressenti, et puis les événements extérieurs qui ont accompagné finalement aussi.
C'est ça qui est formidable d'ailleurs. Michel Fréchet dans le livre, c'est un pavé, hein, il fait 500 pages, écrit petit. Et justement, vous savez très bien croiser... votre intimité d'enfant, ce qui arrive à vos parents, et puis après, quand vous allez rentrer dans le monde du travail, quand vous allez construire une famille vous-même, vous parlez de cette intimité, vous le croisez en même temps avec les événements historiques de l'époque, et puis avec les portraits, on parlait de Belles Rencontres, avec tous les portraits de ces gens qui vous ont fait homme après, je veux dire, c'est...
Oui, parce que ça, au fond, je me suis aperçu à ce moment-là combien on était redevable de toutes ces personnes. Ils ne le savent pas. Mm-hmm. Et moi, je ne m'en étais même pas senti, bénéficiaire à ce point, redevable de toutes ces rencontres qui, finalement, petit à petit, ajoutées les unes aux autres, font que, finalement, ce sont des personnes importantes.
On va quitter l'enfance et marquer une première pause musicale. Mais avant, je voulais lire le texte qui clôt d'ailleurs l'enfance et l'adolescence, hein, le récit de votre enfance et de votre adolescence avec le retour de votre père de
Buchenwald.
Un poème de Martin Niemöller, qui est, vous pouvez nous parler de ce...
Ah oui, ben, Martin Niemöller, c'est un pasteur qui était dans l'armée allemande, il a fait la guerre de 14-18, qui, au fond, quand Hitler est arrivé au pouvoir, au fond, il a suivi le mouvement, mais très vite, dans les années 33-34, quand il y a eu un mouvement de résistance au niveau
après
des
églises. Après la nuit de cristal,
des églises, même avant.
Même avant.
Oui. Il a fait partie du groupe de résistants. Et très vite, il a été visé par le pouvoir nazi. Et il a été emprisonné dans un camp de concentration bien avant la guerre. Bien avant la guerre. Et finalement, il était considéré comme un prisonnier personnel d'Hitler.
L'Église allemande a été comment pendant la guerre ?
Elle était fortement compromise parce que Hitler avait mis à sa tête un pasteur Müller, sans fureur, qui était au fond pro-nazi. Mais par contre, dès 1900, après l'accession de Hitler au pouvoir, et un an après, il y a donc cette église, ce qu'on appelle l'église confessante, qui s'est montrée complètement hostile aux lois, en particulier antisémites, et qui a constitué un noyau de résistance que nous, Français, enfin, nous ne doutions pas, à ce point. Alors, bien sûr qu'il y avait peut-être quelques responsables qui étaient membres du conseil œcuménique des églises, qui avaient quelques échos de ces gens. Mais l'un des plus fameux, évidemment, à côté de Dietrich Bonhoeffer, ça a été, en Allemagne, ça a été Dietrich Bonhoeffer. Alors, qui était un homme absolument admirable.
Je sens qu'on va se rencontrer souvent, Michel. Vous allez nous faire des portraits d'hommes admirables qui sont un peu oubliés. Je voudrais clôturer cette première partie donc, par ce texte qui s'appelle « Quand il n'y aura plus personne pour protester ». Lorsque les nazis vinrent chercher les communistes, je me suis tue. Je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils ont enfermé les sociodémocrates, je me suis tue. Je n'étais pas social-démocrate. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je me suis tue. Je n'étais pas juif. Lorsqu'ils ont cherché les catholiques, je me suis tue. Je n'étais pas catholique. Et lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. C'est un texte magnifique. On écoute notre première pause musicale. Vous êtes toujours sur Radio FM+, dans une belle rencontre avec Michel Fréchet. On a tellement de choses à se dire avec Michel qu'on a un petit peu écourté la musique d'Handel, My Heart is in Dying. Voilà. Michel, après cette enfance qui commence dans la lumière pour finir dans l'ombre de l'occupation, la deuxième partie de l'ouvrage parle des 30 Glorieuses qui commencent pour vous à Montpellier pour vos années lycée. Quel souvenir avez-vous de cette immédiate après-guerre ?
Pour nous, c'était très pesant. Parce que nous sommes arrivés à Montpellier donc, en septembre 1944. C'était... mon père venait juste de partir pour Compiègne. Et il a pris le dernier train. C'est le dernier train qui ne devait pas partir, d'ailleurs, pour l'Allemagne. Et nous n'avions plus eu de nouvelles du tout. Et nous, quand il a été mis dans le train, ici, au départ de Montpellier, quand nous avons ceux qui partaient pour Compiègne, ça paraîtra étrange, mais nous avons été soulagés. C'était incroyable. Pourquoi ?
Oui,
parce
pourquoi ?
Parce qu'on s'attendait qu'il soit fusillé.
Oui.
C'était le moment où on fusille à tour de bras, ici à Montpellier, etc. Et quand il est parti, bon, on s'est dit, bon, maintenant, il n'est plus qu'un numéro, mm-hmm. un numéro parmi d'autres. Mm-hmm. Mais on ne se doutait pas ce qu'il attendait, parce qu'on n'avait pas connaissance de... On a eu la révélation des camps de déportation, ici à Montpellier, au retour d'un déporté. Je ne sais pas si c'était un déporté d'Auschwitz, c'était en février 1945. Mmh. Et il avait rassemblé les familles de déportés, et il a dit, ne vous attendez pas à revoir. Ça dépasse l'imagination, on ne pouvait pas imaginer. Mmh.
C'est très bien mais expliqué alors, dans le Shoah de Lanzmann là-dessus.
Alors, donc, et justement, alors j'avais parlé de ça, mais alors quand alors la Shoah mais, c'était impensable, mm-hmm. même encore à ce moment-là. Mm-hmm. Au fond, même on l'a réalisé encore que plus tard, avant que ça n'arrive. C'était...
Puis c'était tellement sidérant qu'entre le savoir et puis le comprendre, enfin l'imaginer, c'était
Les premiers déportés qui sont arrivés à Montpellier, je me rappelle très mm-hmm. bien, c'était en mars 1945, à la gare Montpellier qui arrivait, etc., c'était hallucinant de voir des cadavres ambulants, mm-hmm. les yeux enfoncés, etc.
Et votre père est revenu dans quel état ?
Alors lui, il est revenu parce que alors donc il a été libéré le 1er avril et il est rentré à la fin du mois d'avril, donc parce qu'il avait été chargé. Vous savez, à ce moment-là, les communications étaient très difficiles avec les bombardements, les déportés. C'est pas eux qui étaient qui rentraient les premiers, hein, c'était les prisonniers de guerre. Et bon, les déportés sont arrivés petit à petit. Mm-hmm. Et lui était chargé, avec deux ou trois autres camarades, d'assurer le bon ordre du retour de tous leurs camarades. C'est pour ça qu'il était donc resté plusieurs semaines avant de rentrer. Et quand il est arrivé, il avait repris un peu de poids malgré tout, mais enfin il pesait 42 kilos. Mmh. Bon, mais d'autres qui étaient, c'était en camping. Et c'est vrai que ça, on sentait qu'il avait été. Et puis c'est vrai que enfin, il s'est très vite remis quand même, physiquement, parce que premièrement il y avait une volonté derrière qui l'animait, ça c'est clair. Et ça compte beaucoup, ça aussi, ça c'est clair.
Et donc, vous rentrez au lycée à Joffre ?
Alors, je rentre à Joffre à ce moment.
Toujours moyen ?
Alors,
ça s'arrangeait.
C'était en quatrième, c'était un peu mieux. Parce que là, j'avais eu quand même des professions. C'était un peu mieux. Oui, quand même, j'étais pas tout à fait en tête de classe, mais
dans la moyenne.
Un peu mieux.
Et là, vous commencez à parler d'un lieu qui me séduit, c'est Massereau. C'est quoi, Massereau ?
Alors Massereau, c'est une propriété familiale.
Mais qui était déjà dans la famille, oui.
Alors... Ah oui, depuis 1804,
d'accord.
Exactement. C'était une propriété qui était devenue bien nationale à cette époque. Napoléonienne, en quelque sorte. Mmh. Et du coup, c'est un de mes aïeux. Du côté maternel, mais il n'avait pas d'enfant, donc il a transféré cette propriété. Il était lainier à Sommières, et il a transféré à son frère, qui lui avait un fils, qui s'appelle Louis Cos, qui est mon arrière-grand-père. Et c'est
maternel.
Lui qui a mis, côté maternel, qui a mis en valeur la propriété, qui était une propriété, qui a été assez vite renommée parce que, était déjà, comment dire, sur le plan agricole, aménagé de telle sorte qu'il était plutôt en tête. On faisait la vigne et, et le vin était emporté, exporté vers l'Angleterre et en particulier à la table royale, vous voyez, de l'époque.
Mais donc, quand vous en parlez, d'un lieu où vous étiez heureux, voilà, le bassin dans lequel vous peignez, voilà, ça fait. C'est très, presque cinématographique la façon dont vous parlez du bonheur de l'adolescence et des moments passés à Massereau.
Oui, ça c'est vrai, c'est douleur.
En 1951, vous entrez à l'École nationale d'agriculture pour y conduire des études d'ingénieur agronome. Donc quand même, scolairement, ça devait aller mieux, Michel. Ce sont des années heureuses, pendant lesquels vous tissez des liens forts avec l'église de Montpellier. Et ouais, vous êtes amené à ce moment-là à fréquenter des pasteurs de Montpellier. Alors, en plus, les noms, je vous ai demandé, c'est le père de... Oui, c'est le père de... Donc, de Jean Pellegrin, le papa de Valdo.
Et Roger Chapal.
Roger Chapal et Georges Crespi, donc, qui est le papa de Michel Crespi de la Gazette. Voilà. Ouais. Et bien sûr, vous fréquentez la faculté de théologie. Il y a des étudiants, dont Gérard Delteille. Toutes ces années alors d'échanges, c'est très enrichissant pour vous. On sent que c'est des années fondatrices.
Très marquantes, oui. Ouais. L'année de mes 20 ans, ça a été merveilleux parce qu'on a fait un camp d'évangélisation, justement, à quel participait Gérard Delteille, notamment, et d'autres, Jacques Galtier, qui était le père de Christian Galtier. Et nous avons vécu là vraiment des heures et des journées, vraiment, je crois.
De partage, d'échange, de discussion.
C'était vraiment une vraie découverte, sur le plan aussi spirituel. Oui, vraiment, ça a beaucoup compté pour moi.
Et ça, vous le transmettez beaucoup dans le livre. On sent le plaisir qu'il y a eu à ce moment-là de cette vivacité intellectuelle, ces échanges, la qualité de ces échanges aussi était très forte.
Une grande qualité, oui, ça c'est vrai.
Et puis en 54, aux environs de Pâques, vous êtes saisi par un appel. Vous racontez cet épisode comme s'il s'agissait d'un véritable presque combat. Toute une nuit, vous restez éveillé dans votre lit, vous éprouvez une singulière présence au plus profond de votre être, comme si une main invisible se posait sur moi et me saisissait. Cette nuit déterminante, c'est quoi, Michel? On comprend, hein, bien sûr, mais j'aimerais que vous nous le disiez.
Comment dire? C'est vrai que c'était je vais utiliser un combat quand même. Un vrai combat parce que, bon, les années avaient passé.
Oui, vous avez 25-26 ans.
J'avais 25-26 ans. Nous étions en pleine guerre d'Algérie. Donc, il y avait encore la guerre d'Algérie en perspective.
Bien sûr.
Après le bac, j'avais fait 5 ans. Que fallait-il faire à ce moment-là?
Et c'était quoi? C'était l'appel de rentrer en ministère, de devenir pasteur? C'était quoi?
Ce besoin, je pense, de partager cet évangile, finalement, que nous venions de découvrir dans toute sa force. Mais je ne savais pas grand-chose. J'étais quand même un moniteur qui m'a aussi beaucoup aidé dans cette... Le moniteur de l'école du dimanche, c'est-à-dire... C'était à l'époque où les écoles du dimanche étaient quand même assez florissantes. Et donc, on avait besoin de... Aujourd'hui encore, d'ailleurs. Mais là, ça comptait beaucoup. Il y avait une formation des moniteurs, une formation biblique avec nos pasteurs. Et sur le plan spirituel, ça a beaucoup joué. Parce que transmettre déjà à des enfants... ce qu'on découvre dans la Bible, même avec des mots qui ne sont pas très, très habiles, un peu hésitants, etc., mais vous oblige, parce qu'on ne peut pas tricher, là. Il faut être sincère de droit. Donc, ça provoque beaucoup de réflexions intérieures, etc. Bon, tout ceci m'a amené, sans aucun doute, à un moment donné, me poser des questions. Et c'est au cours de ma première année à l'école d'agriculture, il y a 3 ans d'école, dans la première année, qu'au fond m'est venu sentiment que c'était certainement là. Mais j'en ai parlé à personne.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que vous en avez parlé? Quand vous en avez parlé?
Il y a une personne à qui j'en ai parlé, c'est à mes pasteurs.
D'accord. Pas à vos parents?
Pas encore, parce que je ne voulais pas, eux qui m'avaient porté pour les études, qui voit là un faux fuyant. Et voulait être sûr, au fond, que c'était bien là. Donc, il a fallu quand même 2 ans de maturation. Et il fallait bien qu'à un moment donné, je me décide.
À leur dire. Et alors, ce choix, ils l'ont pris comment?
Ah, ils l'ont accueilli très favorablement. Oui, je crois. Alors, je crois qu'il avait quand même ressenti.
Oui.
Est-ce que ils avaient eu des conversations avec mes pasteurs? Je n'en sais rien et je ne veux pas le savoir.
Eux-mêmes étaient allés au culte. Enfin, c'était des protestants.
Alors, mes parents, ils étaient seulement on était à Roquefort, donc il n'y avait pas de temple.
Oui,
et à ce moment-là, vous savez, c'était pas commode. Hein. Il n'y a pas d'école, l'école du dimanche, on ne peut pas y aller. C'était, on a été privés de ça. Mais bon, on a eu l'occasion, c'est le Chambon qui nous a beaucoup... Le séjour au Chambon, on a passé quand même trois années au collège Sévenol. Alors là, on a aussi été très marqués. Ça aussi, ça a influé, même sur ma vocation. Ça,
il n'y a aucun doute. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est tellement fourmillant. Je conseille vraiment à nos auditeurs de lire ce livre qui se lit vraiment comme un... Plus qu'un témoignage, quoi. Une fois ce combat et ce moment vécu, vous vous engagez dans une longue formation en vue du ministère pastoral. Vous fûtes accompagné à la faculté de théologie par des professeurs à l'égard duquel vous avez un énorme respect et de la gratitude. Voilà ce qui sous-tend votre vie. Alors, je les cite. Alors, peut-être les orthographes, vous me reprenez, Michel. Mais Willem Vischer, Philippe Menou, Georges Crespi, René Esnault, Henri Lénard, Lucien Rimbaud, Jean Cadier, Pierre Petit, ils ont su vous donner cette passion pour la théologie, justement.
Oui, alors je crois que la passion, je l'ai eue tout de suite en rentrant à la théologie. Évidemment, j'ai quand même, il faut dire que le bagage était très faible rentrant là-dessus. Quelquefois même, j'avais honte d'ignorer des choses que j'aurais dû savoir depuis longtemps. Bon, ceci dit, les études m'ont beaucoup aidé quand même à faire ces découvertes successives, alors sur le plan biblique, alors de la parole de Dieu, comme interpellation permanente, constante. Et en même temps, je peux vous assurer que je n'étais pas fait tellement pour la parole.
Ça s'est arrangé par la suite. Je vous propose à ce moment de l'entretien de parler du cadeau que la vie vous a offert, c'est Mizou. Mizou, vous la rencontrez en 52-53 hein, et vous la revoyez.
Je peux vous le dire, c'est le 14 juillet 1950, au premier camp d'évangélisation.
Voilà. Vous la revoyez en 55 et puis elle partage votre vie et votre gratitude depuis le 27 juillet 57. Elle a aimé, Mizou, que vous parliez d'elle dans le livre ?
Écoutez, il faut que je vous dise la vérité.
Ah ben oui.
J'entrepris le livre. Et ça, ça a été un problème pour moi, parce que je ne voulais absolument pas. Elle savait que j'écrivais, mais je ne l'ai pas montré. Elle ne me l'a pas demandé. Donc, et ce n'est qu'après, quand il est sorti, le livre, qu'elle a lu. J'appréhendais un peu parce que Mizou m'a dit surtout, je n'aimerais pas que tu parles de moi.
Ah, vous voyez, elle n'est pas idiote, ma question, alors.
Oui, pas du tout. Alors, donc, un peu, je veux dire la vérité, j'appréhendais un peu. Mais alors, je dois dire, aujourd'hui, je suis très, très étonné. C'est qu'elle y revient constamment. Et alors, je vois ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est vrai qu'elle me dit, mais tu sais, tous les détails que tu donnes, alors que j'hésitais de les mettre précisément. Mais elle me dit, mais tu sais, c'est ce finalement qui est le plus intéressant.
Bien sûr. On va en parler en deuxième partie. La semaine prochaine, on en parle. Michel, vous partez à Richmond, donc pour clôturer l'année universitaire. Vous passez, et avant, vous parlez de ce bel été que vous passez avec votre amoureuse. Donc, vous le passez à Diolfi. Moi, je suis un peu drômoise aussi, donc Diolfi, je connais bien. Diolfi, qui est d'ailleurs un village de Juste, comme a été le Chambon-sur-Lignon.
Il y avait des liens entre...
Tout à fait. Quel souvenir vous gardez de cette... de ces années américaines, je vous demandais de répondre rapidement parce qu'on arrive à la fin de l'émission, qui sont encore très proches du macartisme quand même, hein, 56-57.
En plein le macartisme. Voilà. Hein, c'était en plein le macartisme. Ah, c'était terrible. Ça a été terrible. C'était au moment de Martin Luther King aussi, vous voyez, on était dans cette mouvance. Ah, j'en garde un souvenir quand même au total merveilleux, hein, je dois le dire, j'ai beaucoup appris alors. Parce que voir son pays, son propre pays, de loin, vous voyez, la France, quand... Les gens ne savaient même pas où ça se trouvait presque. C'est comme nous quand on nous parle du Brunei en Asie, vous voyez.
Oui, tout à fait.
Du coup, c'est bien que je me souviens même quand vous arrivez de New York et que vous arrivez au Havre, le Havre paraît minuscule. Donc ça relativise beaucoup de choses. Bon, mais moi j'ai beaucoup appris à tous égards. Hein. Oui, vraiment.
Michel, je vous propose de nous quitter aujourd'hui. J'avais prévu aujourd'hui de parler de votre mariage, mais on va se retrouver avec le mariage. Donc je vous propose de nous quitter aujourd'hui pour mieux vous retrouver la semaine prochaine pour parler de votre mariage, de votre service militaire et surtout des années qui vont suivre mise au service de l'Évangile. À la semaine prochaine, Michel Fréchet.
À la semaine prochaine, Nathalie.
Les plus belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.